Un sondage sur le journalisme qui est tombé il y a quelques jours. Et ça, ça m'a fait le plaisir. Les Français sont à 86% convaincus que le journalisme est utile. Donc ça, c'est bien. Journalisme utile, on va tous être d'accord, évidemment, autour de cette table. Mais quel journalisme? C'est ça la question qu'on va se poser. On voit de plus en plus une certaine idéologie pointe dans certaines rédactions et faire abstraction des faits, les retourner, les diriger, les mensonger pour servir une cause idéologique, justement. L'affaire de Crépol, que vous avez suivi, très révélatrice de ce problème, le jeune rugbyman Thomas qui a été tué d'un coup de couteau, un crime raciste prémédité selon certains médias dès le lendemain alors que rien n'avait été vérifié. Eh bien, je vous propose d'écouter moi, quelqu'un que vous connaissez bien, Fabrice Arfi, et journaliste à Mediapart.
Oui.
Ah bah oui. Ben oui. Et ben voilà, je vous propose de l'écouter, Fabrice Arfi.
Regardez ce qui s'est passé. On l'a largement documenté à Mediapart avec le drame de Crépol. La façon dont ce fait divers a été utilisé contre la réalité factuelle pour servir une idéologie. On l'a d'autant démontré que la chaîne qui a le plus participé à ça, qui s'appelle CNews, les propres journalistes de CNews qui faisaient leur travail disaient à leur rédacteur en chef, à leur rédaction en chef, attention, faut pas dire ça à l'antenne parce que c'est pas vérifié. Et bim, ça se retrouvait à l'antenne parce que ils en ont rien à faire de la vérité factuelle. Et ben ça c'est terrible. Et donc bien sûr que ça a existé, ça a toujours existé, ça, qu'il y ait des gens pour mentir. Mais il y a de plus en plus de personnes pour écouter le mensonge et il y a de plus en plus de personnes pour lui donner une résonance absolument vertigineuse. Et c'est ça qui est très inédit dans le moment que nous vivons.
Voilà, des journalistes d'un côté qui aimeraient bien faire leur métier, qui veulent vérifier, mais une direction qui balaye tout ça d'un revers de main. Alors, on peut se poser la question de la déontologie. Est-ce que c'est un problème idéologique? Est-ce que c'est aussi une escalade de l'info? Parce que là, maintenant, l'info arrive de partout et elle est tellement rapide sur les réseaux sociaux que les journalistes sont peut-être contraints de balancer l'info sans la vérifier. Comment vous analysez ça, vous, de votre côté, qui êtes des observateurs avertis de l'actualité qui nous entoure? Je vous écoute, messieurs. Non, ça se bouscule au portillon.
Non, écoute, allez, je me lance.
Vas-y.
J'ai la chance d'avoir notre fils aîné qui est journaliste.
Oui.
En plus d'être cartographe. Bon, quand il dit un truc, moi, il m'a toujours appris. Je savais un petit peu, il m'a dit, papa, avant de dire un truc, tu vérifies. Et lui, le nombre de fois, il a passé des heures et des heures à vérifier. Mais je trouve que c'est tout à fait normal de vérifier. Or, surtout dans les chaînes d'information TV, on voit, là, il y a 4-5 chaînes où les vérifications paraissent légères.
Son sommaire, on va dire. Une et réaction.
Moins dans la presse écrite. Il me semble.
Oui, parce que la presse écrite a le temps d'écrire.
Un peu de recul, ouais.
Et donc, tu as le temps d'écrire ton papier.
Oui, puis il reste le papier.
Exactement. Alors qu'à la télé, c'est très rapide, Guillaume.
De toute façon, c'est la course. C'est celui qui va sortir le premier l'info. Donc forcément, ils n'ont pas trop le temps de le vérifier. Après, CNews, c'est plutôt à droite. Mediapart, c'est plutôt à gauche. Ça a toujours existé. Hein.
Bien sûr.
Quand tu achètes ton journal...
Oui, on sait. Voilà.
À part si tu prends les Échos qui est un peu au milieu, sinon, t'en as toujours un qui est à gauche et à droite. Et les journalistes, c'est aussi un peu comme ça. Par contre, les chaînes d'infos, moi, je regarde pas parce que c'est bon, déjà, ça te met pas le moral. Il y a des problèmes partout. Partout dans le monde, tu sais tout de suite ce qui s'est passé. Et bon, Crépol, c'est un truc très très malheureux. C'est monté en boucle. Et puis bon, c'est aussi un phénomène de société. Le jeune a pris un coup de couteau. Quand je vois qu'hier, un match de foot à l'Argentière,
oui.
Le gars, il prend un carton rouge, il sort son couteau.
Son couteau pour en découdre.
On est quand même dans une société assez, voilà, qui est assez violente. Et, ouais, et ces chaînes d'infos, c'est sûr que les gens, ça les rend. Pour moi, ils regardent toute la journée des choses comme ça, pas vérifiées. Très violente, et ça nous aide pas, ça plus les réseaux, comme dirait Laurent Gérard, les réseaux des cas sociaux.
Oui, alors on va en parler justement, voilà. Ça tombe bien, on rebondit, parce que on parle de problèmes idéologiques, on parle de l'info qui va de plus en plus vite, et ce, à cause des réseaux sociaux, qui sont parfois plus rapides pour relayer l'info, et même quelquefois la maquiller. C'est très facile de prendre un extrait de vidéo et de le mettre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a l'impression que c'est de pire en pire, sous la sacro-sainte liberté d'expression, on peut absolument dire tout et n'importe quoi. Je vous propose d'écouter... Ah ben, Raphaël Antoven, voilà. Ah Raphaël, sur l'évolution de la presse, des réseaux sociaux. Alors il est essayiste, il est polémiste et il est surtout vulgarisateur de la philosophie. Alors vulgarisateur, je veux bien, quoique sur la fin, moi j'ai pas tout compris, mais je vous propose quand même de l'écouter.
Et sur le fond.
Raphaël, oui sur ouais. le fond. Sur le fond, écoutez-le, il a raison. Écoutez-le.
Je suis réservé sur l'idée que c'était mieux avant. Non, je pense que c'était différent, mais et encore, c'est une différence pelliculaire. Les gens se sont détestés de la même manière. Salin Gros s'est suicidé, a été acculé au suicide dans les années 30 par la presse d'extrême droite, dont les méthodes étaient exactement celles qu'on retrouve aujourd'hui en ligne. Les interlocuteurs de Socrate, quand ils veulent le faire taire, notamment Thrasymaque, le font taire à coups d'insultes, en refusant de parler avec lui parce qu'il décrète sa méchanceté. C'est exactement la méthode des réseaux sociaux aujourd'hui. Ce qui arrive avec les réseaux sociaux aujourd'hui est vieux comme l'humanité. La seule chose, c'est que ça a donné les moyens à tout le monde de se conduire de cette façon. Mais c'est vieux comme l'humanité. Les problématiques qui sont mises en jeu par les réseaux sociaux, c'est-à-dire le paradoxe d'un monde ouvert qui culmine dans une fermeture accrue, est un paradoxe proprement démocratique que le réseau social porte à incandescence. Mais c'est pas neuf.
Vous avez deux heures.
Non, le début. Et là, il vulgarise.
Vous avez deux heures.
Et là, il vulgarise.
C'est quand qu'on parle de hockey ?
Non, mais
le
en
début,
gros,
ça va.
En,
début,
oui, mais va. En gros, c'est vrai que c'est, la fin, il faut le suivre, quoi.
Tu connaissais Thrasymaque.
Il faut le suivre.
Non, mais je m'en fous.
Non, mais on a compris. Ça, on a compris
en gros,
l'idée.
Ça existait avant.
Exactement.
Ouais, non, mais ça, c'est sûr.
Sauf que ça s'est quand même démocratisé.
Et
alors, j'ai voulu, parce que je savais
il
qu'on,
a quand même
on n'a pas
truc.
Tous...
Oui, il a dit, ça permet à tout le monde de le faire.
Exactement.
Ça, c'est important parce que si on, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu ça... Il y aura une moitié des Français qui auraient fait tuer l'autre. Donc
Alors, ça tombe bien.
C'est Radio Bistrot. Radio Bistrot, mais à l'échelle planétaire. Voilà. Avant, Radio Bistrot.
Donc, moi, j'ai essayé de trouver une autre explication, beaucoup plus simple pour vous tous autour de cette table, et moi, par la même occasion. Elle est signée par un certain Fabrice Eboué, qui explique l'évolution des réseaux sociaux. Écoutez.
Tiens, je vais te donner un tuyau. C'est quoi l'ancêtre du réseau social ? En sachant qu'un réseau social, c'est un endroit où on donne tous notre avis à tort et à travers sur tous les sujets. L'ancêtre du réseau social, c'est le... Le bistrot. Le bistrot, c'était un réseau social avec des couilles. Et il y avait un bistrot dans chaque village, et dans chaque bistrot, il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Dédé, c'était la mascotte, Dédé. On l'aimait bien. Il était un peu con, un peu débile, mais on l'aimait bien. Ça va, Dédé ? Vous savez que la Terre, elle est plate ? Ah, il est con, Dédé, allez ! Mais non, je vous jure, j'ai vu un reportage, il est con, allez ! On l'aimait bien, Dédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? Il s'est passé que Dédé est entré en contact avec l'autre Dédé de l'autre village. Et tout d'un coup, lui dit « Toi aussi, t'avais remarqué que la Terre était plate, hein ?» Et un jour, ils sont deux, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Et un jour, c'est toi qui arrives au bistrot et qui dis « Et vous savez, comme la Terre est ronde, ah, il est con, resservez-lui à boire !» C'est ça, les réseaux sociaux, des bandes à Dédé.
Voilà, c'était une manière de simplifier un peu.
Petite nuance, dans un café, il y a de l'alcool aussi. Hein.
Oui, bien sûr.
Ça aide.
On l'a bien vu. On l'a bien vu. Bon, c'est histoire de se détendre un peu.
Ouais.
Pour en finir avec les réseaux sociaux, et tu en as parlé tout à l'heure, il y en a un qui a une idée.
Thrasymaque.
Je vous propose de l'écouter. Non. C'est Jacques Attali, donc je vous propose de l'écouter.
Plus personne ou presque ne regarde les médias traditionnels. Beaucoup de gens passent l'essentiel de leur temps sur les jeux vidéo, qui est une façon de ne pas voir le réel. Et énormément de gens passent du temps sur les réseaux sociaux où se multiplient les mensonges, les fausses nouvelles, les tant qu'on n'aura pas inventé une application qui pourra dire « ceci est une fausse nouvelle », qui d'ailleurs, à mon avis, ne doit pas être très difficile à faire. Un peu comme Shazam, qui, quand vous utilisez...
Peut identifier une chanson.
Voilà, Shazam, où il y a Pinterest qui peut identifier une plante, enfin, il y en a plein, des dizaines, des centaines de ces applications. Pourquoi il n'y en a pas encore une qui, lorsque vous la confrontez à une information, vous dites « elle est vraie ou elle est fausse ?»
Mais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Mais ça serait quand même une...
Ah, mais ce serait bien, tu me le mettrais dans les tribunaux, dans les commissariats de police.
Ça serait quand même une bonne idée, Guillaume.
C'est un peu nié quand même.
C'est le détecteur.
Mais non, c'est pas nié, moi je trouve pas ça nié.
C'est complètement...
Moi je me méfie d'Athalie parce qu'il était conseiller de Mitterrand et j'ai toujours un peu du mal.
Moi je trouve que ça pourrait être une bonne idée.
L'idée est une excellente idée.
Moi je trouve que ça a développé.
Comment nous on peut savoir le vrai du faux?
On vérifie. Nous on vérifie. Mais s'il y avait une appli qui pouvait vérifier pour nous, ce serait quand même vachement mieux.
Ouais, mais il y a combien de vérités?
Moi je sais que personnellement, à chaque fois que je vois une information qui tombe, je la vérifie toujours une fois, deux fois, trois fois pour voir si effectivement c'est la réalité ou c'est pas un truc détourné.
Il y a beaucoup de vérités.
T'as vu les photos, aujourd'hui, les manipulations de photos.
Avec l'IA, ça va devenir très compliqué en plus.
Comment tu fais les radios trottoirs pour dire aujourd'hui est-ce qu'il fait beau à Briançon? Tu vas interroger trois personnes, ils vont avoir. C'est compliqué. La seule chose que j'ai appréciée dans ce qu'a dit Attali, c'est qu'il n'a pas utilisé le franglais pour dire fake news et il a dit fausse nouvelle. Et ça m'a beaucoup plu.
Et puis il s'est trompé, c'est pas Pinterest pour les plantes, c'est PlanteNet.
Oui, oui, non.
Pinterest. Non, je le dis parce que je regarde souvent PlanteNet.
Pinterest, c'est un autre truc.
C'est autre chose. Mais bon.
Donc fallait vérifier.
On parle de l'IA, c'est quelque chose qui t'intéresse dans ton métier?
Bien sûr, l'IA, c'est une évolution. On ne peut pas aller contre. Donc. Il faut mieux s'y préparer.
Et l'intégrer,
ça va faire comme Internet à l'époque. Hein. Tout le monde avait peur d'Internet. Aujourd'hui, sans Internet, dès qu'il y a une coupure à Briançon de 2 heures, on est cuit. L'IA, il y a des métiers qui vont disparaître, comme architecte, par exemple, ou comme peut-être comptable, je ne sais pas. Il y aura encore des conseillers, mais il y aura d'autres métiers qui vont se créer. Moi, J'ai eu affaire à l'IA il n'y a pas très longtemps. J'étais bien content parce que j'achetais une voiture sur Internet et je demandais un financement. Bon, c'était un financement Mercedes. Et le gars de Paris, il ne peut pas me voir. Donc à chaque fois, il me bloque mes dossiers. Et là, mon dossier a été validé. Et j'ai appelé le gars de la concession. J'ai dit, putain, il a été validé, c'est bizarre. Et il m'a dit, mais non, mais c'est l'IA maintenant. Donc, donc j'ai trouvé plutôt bien cette évolution.
En parlant d'IA, moi je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais ce que je trouvais d'intéressant, j'ai discuté avec mon filleul qui travaille dans une boîte informatique à Paris sur l'IA justement, et il dit en fait il y a tout un tas de professions qui vont disparaître, et là tu parlais des comptables, mais en fait c'est plus général, c'est les cadres moyens, c'est-à-dire qu'en fait tous les cadres qui réceptionnaient les infos des subordonnés pour les centraliser, les mettre sur tableau Excel et les envoyer à la direction, c'est terminé, puisque avec l'IA, tout ça va se faire automatiquement. Et donc du coup, toute cette frange de population, moi j'ai été persuadé avant qu'on parle de ça, que l'IA allait faire disparaître tout un tas de métiers, on va dire, basiques, alors que c'est pas vrai. Les métiers basiques, il va falloir de toute façon le faire. Mais après, c'est toutes les remontées d'informations qui vont se faire automatiquement et qui se font déjà sur beaucoup de métiers automatiquement. Et là, ça va créer un vrai souci d'emploi. Et d'emploi de personnes qu'on ne pensait pas qu'ils allaient être au chômage. Et du coup, au niveau des études, qu'est-ce qu'il faut conseiller aux jeunes?
Oui, alors ça, c'est un volet. L'autre volet aussi, La place que peut prendre l'IA aussi sur notre vie à nous tous, et notamment sur le fait qu'on peut réussir maintenant à sortir un acteur avec un texte et reprendre la voix de celui qu'on avait envie d'avoir éventuellement dans le film pour un peu qu'on puisse incruster son image. On va pouvoir refaire tourner Belmondo et Delon ensemble, par exemple. Non, mais c'est un exemple comme un autre. Donc ça, est-ce que ça risque pas aussi de déborder? Vu comment ça déborde les réseaux sociaux qu'on ne maîtrise pas, si on n'arrive pas à maîtriser l'IA, ça va partir en sucette. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Tu as vu les gens qui doublaient les films
en... Oui, oui.
Et ben là, ils sont très inquiets, parce qu'en fait,
oui,
maintenant,
sûr.
Tout se fait par l'IA.
Et oui. Donc voilà.
Leur métier est quasiment foutu.
Moi je suis pour la modernité,
ouais.
Mais à quel prix?
De toute façon, en plus on a les États-Unis en face qui vont à fond là-dedans.
Et oui.
Et nous en France, on est toujours un peu.
Voilà, on
et l'Europe,
investi,
l'Europe,
visiblement.
On investit, mais on est obligé qu'on soit pas les derniers. Et après,
oui.
C'est sûr il faudra un encadrement, mais c'est un peu ce qu'on essaye d'avoir avec les réseaux sociaux. parce qu'il y a les réseaux qu'on connaît, mais il y a les réseaux cryptés où tous les trafics d'armes, de drogue se passent là-dessus. Donc,
Darknet.
Il faudra des barrières. Après,
Yves,
il disait pour nos enfants, dans quelle voie faut qu'ils partent dans l'armement, quoi, aujourd'hui.
C'est l'avenir.
C'est malheureux, hein, mais c'est...
Tu vas faire des pistolets en bois,
ouais,
et des arcs.
Non, mais on avait un allié qui s'appelait les États-Unis. Là, pour le coup, les gars, ils ont des avions en Europe. Il n'y en a pas un qui peut les faire décoller. Donc, c'est vrai que ça devient compliqué. Si on parle un peu d'armée, mais c'est sûr qu'une armée européenne, c'est comme si l'armée des États-Unis, il y avait une armée en Floride, une armée en Alaska, ça n'aurait pas de sens.
Je pense que
aujourd'hui, l'armée européenne...
Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pu trouver un accord sur cette armée européenne il y a quelques années.
Ah ouais, là, ça va faire comme avec nos trains de nuit. Hein. À mon avis, il y a un peu de retard.
Hein. Ouais, on va arriver après la guerre.
Voilà.
On va rester dans la violence, hein, puisqu'on est en plein dedans, hein, puisque Guillaume, il aime bien ça, visiblement. Non, je plaisante. La violence dans le sport, tu en as parlé avec ce qui s'est passé ce week-end, donc justement au foot. Violence dans le sport, violence verbale, insultes, chant raciste, chant homophobe, violence physique aussi, pour certains, ça fait partie du folklore du football. On ne doit pas s'en alarmer, paraît-il. Pour d'autres, en revanche, c'est problématique. On l'a vu dernièrement avec les chants contre Adrien Rabiot, passé au PSG, puis à la Juve et aujourd'hui à l'OM. Lors du dernier Classico, certains supporters parisiens sont allés vraiment très loin en tenant des chants insultant donc Adrien Rabiot d'une part, également sa mère, surtout son père, mort d'une maladie neurodégénérative il y a quelques années. Alors, est-ce que ça, pour vous, ça reste du folklore? Pour les gens qui disent « Ouais, mais si, on a toujours dit, on a toujours fait ça dans les stades, c'est normal, c'est le folklore. » Alors, folklore, pas folklore? Ah bah non, pas folklore. Guillaume.
Bah, le foot, moi, mes deux enfants faisaient, ils ont arrêté. Moi, j'ai participé.
Mais c'est parce que tu as voulu qu'ils arrêtent ou
T'as œuvré.
Oui, j'ai œuvré. Ouais. Et le grand, il en fait maintenant, parce qu'il aime bien, il en fait en vétéran. Mais le public, ça va pas du tout, les parents, ça va pas du tout. Non, c'est le reflet de notre société, malheureusement aussi. Mais quand tu te déplaces, surtout vers Marseille, c'est pas possible.
On serait joué à Rondou, mais etc.
Non,
là,
c'est pas possible. Donc, moi, je leur ai dit, vous faites un autre sport, sinon ça... Une, je vais pas vous accompagner. Et ils ont compris d'eux-mêmes.
Et puis cette angoisse aussi.
Voilà, non, mais ils ont compris d'eux-mêmes, c'est devenu plus possible. Après, dans les tribunes, c'est du grand n'importe quoi. Mais on fait rien. On attend qu'il y ait des morts. Les clubs font rien. Personne fait rien. On n'enlève pas de points. En fait, là, je dirais même que les spectateurs, ils sont pas plus bêtes ni plus intelligents qu'avant. C'est que comme personne fait rien, mais ils continuent. Je veux dire, en Angleterre, ça a été jusqu'au drame du Hazel. Ils ont trouvé un moyen.
C'était radical.
Ils ont 10 fois le prix des places. Bon. Il y a un public fortuné en Angleterre. Je pense pas que le public fortuné français là aille au foot. Il va plutôt au rugby ou ailleurs. Bon, ça
non,
marche.
Mais comme tu dis, si tu enlèves des points.
Mais si t'enlèves des points, ça va s'arrêter.
Ça va calmer. Hein.
C'est comme l'arbitrage. Ils ont le droit de s'insulter. On n'a pas les micros. Au rugby, vous avez les micros, c'est fini. Mettez les micros. Enfin, je veux dire, pourquoi les instances ne font rien au niveau du foot? Alors, si le foot veut pas les faire, eh ben, le ministre des Sports, faut prendre la main. Je veux dire, c'est. Enfin, c'est devenu. On a parlé de Rabiot parce que c'était à Paris, mais il y a eu le feu à Montpellier, que bientôt on met le feu au stade et puis que tout le monde s'en fout. C'est du grand n'importe quoi.
Et à Montpellier, ils sont toujours pas statués.
Non.
Ils se sont vus une première fois, dire oui, mais on va se revoir un petit peu plus tard parce que bon, bah, c'est un dossier un peu compliqué. Non, mais qu'est-ce qu'il y a, le dossier compliqué?
Une fois à Marseille, ils avaient caillassé le bus de Lyon et personne n'a rien fait parce que c'est pas dans l'enceinte du stade.
Ah oui,
on attend qu'un jour il y ait 40 morts dans un bus pour. Bon, là, je suis abasourdi par le. Ils font rien. Personne ne fait rien. Donc là, voilà.
On est d'accord. On est d'accord.
Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Guillaume. Mais dans le foot, il y a même un problème. C'est l'arbitrage qui fait rien. On ne donne pas les moyens aux arbitres. Tu parlais du rugby, où c'est vachement pédagogique. Déjà au haut niveau. Et le haut niveau descend après dans les divisions inférieures. Au foot, c'est n'importe quoi.
Je crois
qu'en 98, on avait interdit et sanctionné d'un carton rouge le tacle par derrière. Et aujourd'hui...
C'est fini.
Je t'en vois plein. Et c'est un peu moins violent qu'à une époque. Moi, ma jeunesse, le foot avec le catenaccio italien, c'était plus violent.
Ouais.
Mais malgré tout, les règles ne sont pas appliquées. Et on n'applique pas et on ne donne pas les moyens des règles. Moi, j'ai joué au foot 40 ans, on avait une exclusion de 10 minutes, comme il y a au rugby, comme il y a dans plein d'autres sports, comme il y a au hand.
On pourrait faire évoluer un peu.
Comme il y a au hand.
On pourrait faire évoluer effectivement les règles.
Une équipe qui triche, elle se retrouve à 9, tu vas voir si les mecs ils bronchent.
Ma pile coach de Lyon qui a manqué de mettre un coup de boule.
Oui.
Comment tu que ça ne ruisselle pas sur les matchs des gamins,
Oui.
C'est juste pas possible. Fallait l'interdire à vie, ce monsieur, puis terminer. Faut prendre des décisions radicales, on ne pourra pas s'en sortir autrement.
Ouais, c'est triste à dire, mais il n'y a que ça. Alors après, revenir sur l'arbitrage, comme tu dis, un arbitre qui... parce qu'il y a des champs fascistes ou racistes dans les tribunes, arrêter le match, il prend une grosse responsabilité sur ses épaules, il sera tout seul à prendre la décision, donc ça risque d'être compliqué.
Il laisse finir le match, il enlève les points, c'est fini.
Ouais, voilà.
C'est une commission. Hein.
Commission, 2-3 jours après.
Commission disciplinaire, elle existe. Hein.
Sur le moment, c'est très difficile. Enfin, ce qui est impensable déjà quand on voit ces joueurs de foot qui viennent discuter avec l'arbitre au ras de l'insulte, quoi.
Ouais.
Front contre front, de bon, va là.
Et puis les clubs, ils laissent rentrer les fumigènes, ils laissent tout rentrer.
Alors,
donc ils sont quand même responsables. Je veux dire, des banderoles de 100 mètres de long, tu vas m'expliquer comment tu rentres ça dans un stade quand même.
J'ai la lire avant.
J'ai noté, puisque hier soir, on enregistre aujourd'hui lundi, et dimanche soir, il y avait le match de l'équipe de France. J'ai noté qu'il y a un seul Français qui a parlé à l'arbitre. Pendant le match, c'est le capitaine. Tu as vu le match ?
Non.
Mbappé a été le seul à s'adresser quand il y avait un problème, etc. Ce qui est dans la loi l'autorise. Mmh. Donc ça, j'avais trouvé ça très bien.
Très bien.
D'habitude, on voit toujours les gros. Et là, je trouvais que voilà, il y avait Mbappé qui venait, qui faisait son boulot de capitaine. Et j'ai trouvé ça plutôt très bien. Et si ça pouvait être comme ça sur tous les stades au niveau du championnat, ça pourrait donner une image, justement. C'est des petites choses, hein. C'est pas grand-chose. Mais si tu as le capitaine, et uniquement le capitaine, qui va voir l'arbitre pour parler...
Comme le rugby, d'ailleurs.
Comme le rugby.
Le gars dit, vous êtes qui, vous ? Non, voilà. Vous appelez le capitaine, j'en ai...
Mais même au tennis...
Il faut noter aussi qu'il y a une culture du rugby. Hein. Oui. On sent bien que le gars, il se prend un rouge... Bah, il tourne les talons, il s'en va, et puis il dit rien à l'arbitre, quoi.
Mais on va demander à Guillaume, t'imagines le hockey sans la prison ?
Oui.
Ce qu'on appelle la prison, c'est un peu, bon... Sans la prison, la violence qu'il pourrait y avoir dans le hockey.
Ouais, puis le hockey, il y a un petit peu le même problème du foot avec l'arbitrage. Moi, j'ai vu des joueurs insulter l'arbitre. Et l'arbitre pas bien parler aux joueurs. Il faut qu'on ait les micros. Le rugby, il y avait aussi ça. Ils ont mis les micros... On entend tout. Le foot, déjà, normalement, la loi, il n'y a que le capitaine qui doit parler.
Ouais.
Mais le jour où vous mettez des micros, ça va s'arrêter. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi les instances ne le font pas ? Ça, c'est toujours... Et OK, c'est pareil. On nous a demandé plusieurs fois à la fédération, mettez des micros. Les joueurs n'ont pas à insulter les arbitres et les arbitres n'ont pas à mal parler aux joueurs. Il y a du respect dans tous les sports. Et bon, le hockey, c'est un sport de contact. C'est déjà un sport violent à la base. Le foot aussi, c'est aussi un sport de contact. Le rugby, encore plus. Mais bon, s'il n'y a pas de respect, et si on ne respecte pas les règles, moi, je ne voudrais pas être entraîneur dans des clubs de district. Hein, parce que vous ne pouvez pas gérer les gamins quand ils voient ce qu'ils voient à la télé au niveau pro. Quoi.
C'est pas possible. On va terminer l'émission avec une dernière chose, une info que j'ai vue ce week-end. Voilà, alors vous la connaissez pas ou vous l'avez peut-être entendue. C'est la votation des jardins urbains qui ont été donc votés à Paris. Hein, c'est-à-dire que on a demandé aux Parisiens de s'exprimer sur le fait qu'il y aurait une augmentation de la végétalisation des rues de Paris et donc des rues interdites complètement aux voitures, rues piétonnières. Donc 66% des votants parisiens ont voté en faveur de cette végétalisation, excusez-moi, de 500 rues de la capitale. Voilà. Alors... C'est beaucoup, 66%, mais le problème...
Et 500 rues, c'est beaucoup.
Le problème, c'est qu'il y a 1,4 million de Parisiens qui étaient appelés aux urnes, et il y a eu 50 000 électeurs.
Wow. 4%, je crois.
4%, absolument. 4% des Parisiens se sont déplacés. Donc là, alors c'est bien gentil hein, de demander aux gens de se déplacer pour voter, de leur demander leur avis. Il y en avait déjà eu deux avant. C'était la mise en place d'un tarif spécifique de stationnement pour les SUV à Paris. Et puis les trottinettes en accès libre. Voilà, donc ça c'est pareil. Donc ça a été voté à l'époque. Et donc là, c'est le troisième dossier. Est-ce qu'on peut être vraiment responsable d'une mairie pour accepter que 50 000 électeurs puissent donner l'avis d'1,4 million de Parisiens? C'est ça, moi, qui m'inquiète. Alors, vous allez me dire, ils avaient qu'à se déplacer voilà. Et aller voter.
Les deux principes qu'on peut appliquer. Hein.
Mais est-ce que c'est représentatif, quoi, 4%?
La votation, c'est suisse. Hein.
Oui. C'est vrai?
Ils y vont tous les dimanches, là-bas.
Et là, il y a du monde. Hein.
Ça, c'est culturel. Voilà, c'est suisse. En France, bon... Si on met des politiques au pouvoir, c'est pour qu'ils décident à notre place. Parce qu'ils doivent prendre du recul, ils doivent... Voilà, on a bien vu pour le Brexit en Angleterre, ce que ça a donné. Moi, je ne suis pas pour faire voter...
Pour un oui et pour un non.
Pour un oui et pour un non. On met des gens en place qui sont censés être responsables, ils doivent prendre les décisions à notre place.
Oui, il y a beaucoup de politiques qui sont pour cette votation citoyenne.
Oui, mais c'est très culturel, c'est très suisse, où là-bas, tout le monde est très carré. Et là-bas, quand on vous dit d'aller voter, vous y allez.
Oui.
Voilà. En France, on se plaint et personne ne va voter. C'est sûr. Mais bon, c'est Anne Hidalgo, elle arrête comme ça au moins. Elle n'aura pas le problème de savoir si elle va repasser ou pas repasser. J'ai vu qu'il se déchire à gauche et à droite, ça promet encore.
Ça va être des municipales qui vont...
Rachida Dati, c'est déjà... mis sur la...
Sur la liste.
Sur la liste.
Ouais. Ouais. Bah oui, effectivement. Bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, on va se quitter puisqu'on est arrivé au terme de cette émission. Alors, merci à vous. Pour une fois, on était avec toute l'équipe, même. Donc ça, c'était cool. Merci à vous tous d'être venus. Merci à notre invité.
Merci.
Pour la quatrième fois d'être venu, d'avoir participé. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir.
Je suis le seul qui n'est pas retraité.
Oui, exactement.
Tout de suite.
C'est non, moi non plus.
Mois de juillet,
ça va arriver. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume Le Bigot.
Merci.
Et à une prochaine fois, messieurs, merci. Et on se dit à la prochaine de Briançon. On est au mois de mars. Et bien, on se verra au mois de mai. Allez, à bientôt.
À bientôt.